Voilà, donc la dette peut-elle être remboursée, hein, vaste question. Eh bien, c'est Céline Sabatier-Lahondès qui va répondre, tenter de répondre à cette question. Céline est en troisième année de doctorat à l'université de Blaise Pascal, donc de Clermont-Ferrand. Elle travaille sous la direction donc de Daniel Berton Charrière et de John Clarkakis, voilà, sur la thématique Transsexuality, Sources and Transmission of the Celtic Culture through the Shakespearean Repertory. Voilà, donc sa recherche porte sur l'intertextualité au sein du réseau de sources en lien avec les pièces de Shakespeare et plus particulièrement donc sur la transmission des motifs à partir de la culture celtique. Voilà, j'en dis pas plus, je cède tout de suite la parole à Céline.
Merci Agnès, merci. Je renouvelle mes remerciements pour cette invitation. Je suis ravie d'être là parmi vous. Vous avez chacun dans vos dossiers le petit exemplier que j'avais prévu pour vous. Et peut-être au fond, il y en a, je crois, si vous ne l'avez pas encore, il y en a des disponibles, c'est d'accord. Alors. Comme le disait Agnès, cette recherche qui porte sur les sources et la intertextualité liée à l'œuvre de William Shakespeare, et plus particulièrement sur la transmission de motifs issus de la culture dite celte, me fait travailler en premier lieu sur la Renaissance. Et ceci me défend bien sûr de me présenter comme médiéviste. Cependant, les textes médiévaux s'invitent d'eux-mêmes dans cette recherche comme autant de liens incontournables entre l'Antiquité classique, l'Antiquité celtique et Shakespeare. L'intégralité de cet exposé pourra être développée dans la version écrite de la journée d'études. Pour l'heure, il s'agit de présenter, de visiter de façon très succincte différents aspects du thème de la dette et de l'endettement liés aux sources médiévales de Shakespeare. Tout d'abord, un incontournable, je ne pouvais pas passer à côté, le Marchand de Venise et deux de ses sources datant des XIIIe et XIVe siècles. Puis j'aimerais aborder le concept de source d'une œuvre et donc de la dette qui peut être contractée vis-à-vis des sources dans le sens 1B de l'Oxford English Dictionary, something immaterial, immaterial debt. Enfin, nous explorerons quelques exemples liés à la culture dite celte présente dans les textes médiévaux et chez Shakespeare également. Ceci constituera un très bref aperçu d'un sujet non encore exploré, à ma connaissance, par les études shakespeariennes. Alors, le thème de la dette, s'il est souvent utilisé chez Shakespeare, je pense au Roi Lear et à Hamlet par exemple, dans le registre de la dette filiale, apparaît de manière criante dans Le Marchand de Venise, avec le célèbre pacte de chair qui unit Antonio à Shylock, l'usurier juif. Ce motif est en fait séculaire. On le retrouve en premier lieu dans le Mahabharata, hein, ça c'est Bellow qui le dit lorsqu'il travaille sur les sources de Shakespeare, le Mahabharata qui aurait été écrit dans les premiers siècles avant Jésus-Christ. Mais l'exemple qui nous intéresse date du XIIIe siècle. Il s'agit d'une version moyenne anglaise de la Gesta Romanorum, compilation de contes populaires présente dans toute l'Europe médiévale. Dans le récit en question, il n'est pas précisé que le marchand est juif. Il est usurier, et cela suffit. C'est dans la politique qu'Aristote distingue deux façons d'amasser de la richesse, l'une liée à la gestion naturelle du foyer et l'autre liée au commerce. Je cite, « La plus détestable forme étant l'usure, car il s'agit de faire fructifier quelque chose de non naturel. » Fin de citation. Soit quelque chose d'inerte, autrement dit l'argent. Dans son introduction au Marchand de Venise chez Arden, John Rakakis parle de « sterile breeding of money, usury, as the demonized obverse of the act of biological creation ». Et nous touchons ici au cœur du problème. Le marchand, the merchant, dans la Gesta Romanorum, le prêteur d'argent, est présenté comme diabolique. il est dans le conte celui qui obtient du chevalier de pouvoir prélever toute la chair de ses os, et pas uniquement une livre comme dans Le Marchand de Venise, mais toute la chair de ses os, contre l'argent tant désiré pour pouvoir courtiser et conquérir la demoiselle, l'équivalent de Portia dans le Marchand de Venise. Cela ressemble fort à un pacte faustien, en effet. Si nous prenons la première citation dans l'exemplier de la Gesta Romanorum, Thou make to me a charter of thine own blood in conduction, that if thou keep not thy day of payment, it shall be lawful to me for to draw away all the flesh of thy body from the bone with a sharp sword, and if thou wilt assent hereto, it shall fulfill thy will. The knight loved the damsel so much that he granted all this. Un autre texte médiéval, le Cursor Mundi, un poème northumbrien datant du XIVe siècle, fait figurer ce motif. Et dans ce poème, le marchand est juif. Le motif de la dette se change ici en motif expiatoire, puisque le marchand est amené à se laver de son péché au troisième sens de l'Oxford English Dictionary, le troisième sens de dette, a sin. Il pourra se laver de son péché en se convertissant à la foi chrétienne. Si nous prenons le deuxième exemple dans l'exemplier, je vous présente la trame. Nous sommes à l'époque de Constantin, l'empereur chrétien de Rome. Il s'agit de retrouver la Sainte Croix, la croix sur laquelle Christ a été crucifié. Le déroulement de l'histoire, page 2, est similaire à celui de la Gesta Romanorum, en cela que nous retrouvons le pacte de chair, the flesh bond, le jugement, la cruauté dont fait preuve le marchand lorsqu'il exige son dû, il va jusqu'au bout, il veut son lot de chair, et aussi le fait qu'aucune goutte de sang ne doive être répandue. C'est ce qui permet de dénoncer le pacte, finalement. Mais il est ajouté à la trame principale une dimension expiatoire. Le juif pourra s'amender de sa double dette envers Dieu, c'est-à-dire en sous-entendu le péché d'usure et le poids de la trahison du Christ par le juif Judas Iscariote, en retrouvant la Sainte Croix et en se faisant baptiser. Nous prenons page 3 dans l'exemplier. Thou shalt be quit of all thy pain if thou wilt do as I thee bid, to show us where that cross is hid. Et un peu plus loin. Then said the Jew that all this heard, Christ, thou art savior of this world. Puis le juif se saisit d'une pelle et creuse. Il creuse, et il finit par trouver. They found the crosses, and was that ilk. This miracle sin with many men. They bare it to the temple then. The youths to the baptism ran. There was christened many a man when that cross was brought in. Le texte médiéval est très explicite. Le juif arrive à se défaire de sa dette par une conversion à la foi chrétienne. Et ce texte médiéval, finalement, éclaire la dimension expiatoire présente chez Shakespeare aussi. Forme plutôt sous-entendue, finalement. Il révèle aussi cet autre sens des termes dette et endettement, le sens de péché. Mais au-delà de la dimension financière et du motif pécamineux, le thème de la dette se décline aussi dans le domaine de l'étude des sources textuelles. James Shapiro utilise les termes de considerable debt dans son dernier ouvrage paru en octobre 2015. Page 172, c'est pour évoquer ce que Shakespeare doit à une œuvre l'ayant inspiré pour écrire La Tempête. Nous nous trouvons ici en présence de ce que l'on pourrait qualifier de dette immatérielle. La dette, c'est, toujours dans l'Oxford English Dictionary, that which is owed or due, anything as money, goods or service, which one person is under obligation to pay or render to another. Et qui peut être, au sens 1a, a sum of money, something material, et au sens 1b, something immaterial. Dans les deux cas, il y a obligation de rendre. Cependant, malgré cette obligation de rendre, comment est-il possible d'envisager un quelconque remboursement d'une dette immatérielle ? Sous Élisabeth, le statut d'auteur, Élisabeth Ière, le statut d'auteur, et sous Jacques Ier après elle, ce statut était tout juste naissant. La notion de plagiat également. La Renaissance apparaît comme une période de transition entre un monde de tradition orale, hérité d'ailleurs de la période celtique, et une adoption définitive de l'écrit pour la transmission du savoir. C'est une période de transition économique également, comme le précise John Draper dans un article qui date de 1935, entre un système économique médiéval et un capitalisme moderne. Nous pourrions donc imaginer, concevoir peut-être, une économie de l'immatériel et considérer les textes sources de Shakespeare comme autant de bienfaits culturels transmis de génération en génération pour le bien de la communauté, pour sa distraction, son instruction, son épanouissement, le développement spirituel, bref, tout ce à quoi sert la culture. J'emprunte le terme de bienfait à Sénèque, pour qui la simple reconnaissance de ses bienfaits vaut remboursement de la dette contractée envers le donateur. Je cite De Beneficiis, livre 1er, car ces dettes-là, les bienfaits, ne se paient pas en argent. C'est le cœur qui les acquitte, et c'est les acquittés que d'aimer à les reconnaître. Fin de citation. Shakespeare, lui, pour sa part, s'est inscrit fortement dans cette dynamique de transmission orale des œuvres. Je cite John Draper. Just as the stories of the romances, là nous sommes dans la période médiévale, were changed and reinterpreted century by century, so Shakespeare gave timely significance and telling vividness to his borrowed origins. Fin de citation. L'étude de ses origines empruntées nous conduit finalement au-delà de la période médiévale, même si l'on peut dire que cette dernière agit comme un révélateur des sources plus anciennes. Shakespeare n'avait certainement pas conscience lui-même d'emprunter et de transmettre une partie du patrimoine culturel de son propre pays, bien que cela soit un autre débat. Il n'a pas lui-même remboursé son dû vis-à-vis des sources celtes, puisqu'aucune reconnaissance de dette n'a été établie. Mais tout peut arriver, puisqu'on vient de retrouver, vous savez, un manuscrit de la main de Shakespeare il y a peu. Cependant, puisqu'il nous a transmis son œuvre, on peut dire, on pourrait imaginer aussi que c'est à nous qu'incombe aujourd'hui la responsabilité de reconnaissance. On pourrait essayer en quelque sorte de quantifier cette dette immatérielle vis-à-vis de la culture dite celte, car bien qu'en en proportion bien moindre par rapport aux références antiques par exemple, cette matière se retrouve visiblement, matériellement visible dans les textes. Par exemple, la matière arthurienne, dont les sources celtes sont attestées, est présente dans le Roi Lear. Acte 3, scène 2, le personnage du fou, seul sur scène, c'est la nuit, et il prononce à ce qui ressemble à une parodie de prophétie, il faut bien le dire. Hein. Et il termine par « This prophecy Merlin shall make, for I live before his time ». D'un point de vue chronologique, la référence est correcte. L'histoire d'Arthur se situerait entre les 4e et 6e siècles de notre ère, alors que la période de Lear, si l'on se réfère à Monmouth, correspond davantage au 8e siècle avant Jésus-Christ, soit les limites de la première période celte et de l'âge du bronze. Le fou parle donc bien avant Merlin, chronologiquement ou chroniquement parlant. Le souhait de la part de Shakespeare de situer son histoire en des temps très anciens est clair. Il reconstruit comme à chaque fois un contexte pour sa pièce. Et Merlin n'est d'ailleurs pas la seule référence arthurienne dans le Roi Lear. Le célèbre château d'Arthur, Camelot, tient aussi sa place dans la tragédie lorsque Kent, avant d'être mis au pilori, attaque et insulte Oswald. Il dit « Goose, if I had you upon Sarum Plain, I'd drive thee cackling home to Camelot. » La matière arthurienne est vue ici plutôt comme moyen de situer la pièce en des temps très anciens par Shakespeare. Dans Macbeth, à présent, l'épisode de la forêt qui marche, qui intervient à la fin de la pièce, lorsque Macbeth le félon se retrouve assailli par une armée de soldats portant des branches d'arbres, trouve son origine dans des textes irlandais et gallois, retranscrits à l'époque médiévale, bien sûr. C'est ce que a dit Christian Guyonvar dans son ouvrage « Les druides ». Christian Guyonvar était un celtisan renommé, qui a travaillé à Rennes notamment. Ainsi, dans le récit de la seconde bataille de Moytura, l'extrait 3 sur votre exemplier, Luc demande-t-il à ses sorcières comment elles comptent intervenir dans la bataille. Et elles lui répondent « Not hard to say. We will enchant the trees and the stones and the sods of the earth, so that there will be a host under arms against them, and they will scatter in flight terrified and trembling. » Le manuscrit date de 1512. Également, le poème gallois du Cap Godeu, la bataille de Godeu ou combat des arbrisseaux, figurant dans le livre de Taliesin du XIVe siècle, met en scène une armée complète d'arbres guerriers. Il s'agit de l'extrait 4 sur l'exemplier. The alder trees, the head of the line, formed the van. The willows and quicken trees came late to the army. The elm, with his retinue, did not go aside a foot. He would fight with the center and the flanks and the rear. The oak, quickly moving before him, trembled heaven and earth. A valiant doorkeeper against an enemy, his name is considered. Vous voyez peut-être des parallèles avec Tolkien, on ne peut pas s'empêcher de voir ici les Ents, évidemment. On retrouve enfin le motif de la forêt qui marche dans le Mabinogi de Branwen, fille de Lir. Les manuscrits des Mabinogion datent du XIVe siècle également. On trouve ici une forêt qui marche sur l'eau, cette fois. L'exemple 5. Lord, we have extraordinary news. We have seen a forest on the sea where we never before saw a single tree. That's strange. Could you see anything else? Yes, Lord. We could see a huge mountain beside the forest, and it was moving. And there was a very high ridge on the mountain, and a lake on each side of the ridge. And the forest and the mountain and all of it was moving. Les différences avec le Macbeth de Shakespeare sont fort nombreuses, notamment en ce qui concerne la dimension mythique. On observe que Shakespeare tient une ligne directrice qui oscille entre mystère et raison. Il se garde bien de mettre en scène des arbres réellement enchantés. Mais il n'en reste pas moins la présence des sorcières, héritières, selon Guyonvar, des druidesses, hein, des femmes druides, et le motif de la forêt guerrière, qui reste présent d'ailleurs sur le continent également, puisqu'on retrouve un récit de Tite-Live parlant des Gaulois et d'un procédé de bataille impliquant des arbres sciés auparavant par les guerriers gaulois et qui seraient tombés sur les légions romaines, anéantissant ainsi toute une armée. Donc le fait d'ailleurs que ce motif se retrouve à la fois sur le continent, mais au Pays de Galles et en Irlande également, a conduit Pierre Leroux dire qu'il y aurait une harmonisation culturelle celtique au niveau européen, ce qui est aujourd'hui notre culture européenne. Ceci est soumis aussi à un autre débat. Avec cette problématique du remboursement de la dette, nous questionnons sans doute une économie de l'excès. En tout cas, donner toute la chair de ses os, ou ne serait-ce qu'une livre, en paiement d'un emprunt d'argent, passe les limites du concevable. Vouloir reconnaître une dette immatérielle contractée par Shakespeare envers ses sources celtes, on passe encore. Mais cette dette, cette économie de l'excès, nous incite à aller, pour conclure, jusqu'à établir un pont, pourquoi pas, entre dette immatérielle et dette matérielle. Imaginons que nous puissions en effet quantifier l'une et l'utiliser pour rembourser l'autre. Quel formidable bouleversement de l'ordre des choses. On pourrait se demander si, finalement, la dette matérielle d'un pays comme la Grèce aujourd'hui pour rejoindre notre brûlante actualité. Et loin de moi l'idée de mettre un terme ou de donner une solution au problème. On pourrait se demander si les Grecs ne pourraient pas faire valoir une dette immatérielle contractée par nous, monde occidental, auprès de cette civilisation antique remarquable dont nous bénéficions encore aujourd'hui des bienfaits, jusque par exemple dans le nom même de l'Europe, de notre continent. Même si ces dettes-là ne se paient pas en argent, nous dit Sénèque, même si c'est les acquittés que Démer allait reconnaître, dans le contexte actuel, cela laisse quelque peu songeur. Je vous remercie.
Remarques, disons.